Nintendo Master.
Bonjour et bienvenue pour la 10e édition du podcast de Nintendo Master. Ça y est, c'est la 10e. Alors on a sorti le gâteau, les bougies, ça y est, tout est là.
Non, tu t'enflammes, non, on n'a pas sorti de gâteau.
Vous aurez reconnu la voix d'Arulz qui est de retour. Comment ça va, Arulz?
Vous m'avez manqué, les gars. Les membres.
Ils apprécieront. Crayo est là aussi.
Ouais, moi je suis toujours là, fidèle au poste, mais je suis contraint par la force de venir, donc voilà.
Ouais, ouais, puisque évidemment c'est l'épreuve, on l'oblige, on le
menotte. Il est attaché au canapé rouge.
Bah oui, voilà, c'est...
Exactement. Alors, le programme de cette semaine des news, hein, évidemment comme d'habitude. Et puis alors, qui dit 10e podcast, dit les 10 ans de la GameCube. Ou le GameCube,
le GameCube.
Il y a trop de débats là.
Ça commence déjà, on va revenir un peu sur cette console mythique ou pas, on va voir, on va en discuter. Il y aura évidemment les titres de la semaine, les questions des membres, le jeu d'Arulz.
Tout à fait, il y revient, hein, avec moi.
Arulz qui nous a préparé un tout nouveau jeu pour
oui,
cette édition.
C'est vrai, tout à fait. Un nouveau jeu, hein, parce que j'ai eu 2 semaines, alors je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, et je prépare un petit nouveau jeu.
Voilà, on espère que vous serez à la hauteur.
Ouais, parce que j'ai quand même mis le niveau très haut la semaine dernière, donc...
Ouais, alors justement, tu veux vraiment qu'on en parle? Parce
non,
que j'ai écouté
arrêter,
quand
on,
même. Hein.
On va s'arrêter là.
Bon allez, on démarre tout de suite avec les news. On l'attend ou pas, le Dr. Lautrec arrive bientôt sur 3DS.
Oui, enfin, bientôt. Il a été repoussé, malheureusement. Hein. Prévu initialement le 13 novembre, il ne sortira finalement que le 6 décembre 2011, hein, toujours par contre. Hein. Bon, c'est un petit report, et je pense que c'est un petit peu aussi pour pas se retrouver en face de Professeur Layton qui sort à la fin du mois de novembre, quand même. Hein.
Ou entre Mario...
Oui,
Mario
aussi,
Kart.
Ouais, c'est possible.
Enfin, quand même, entre les deux, si vous avez à choisir entre Dr. Lautrec et Professeur Layton, je pense qu'il faudra quand même.
Bah ouais, tout le monde choisit Dr. Lautrec, franchement.
Ah bah oui.
Non, je déconne, Professeur Layton, bien sûr.
Wario débarque sur 3DS, nouveau jeu.
Oui, mais attention, il faut pas s'enflammer parce que c'est sur l'eShop. Et donc, on sait que les deux premiers opus sont réapparus sur l'eShop. Et là, l'OFLC, donc l'équivalent du PEGI australien, vient d'enregistrer la semaine dernière dans sa base de données les informations sur Wario Land, Super Mario Land 3, donc voilà, qui était sorti sur Game Boy et qui était un très très bon jeu. Donc voilà, on espère qu'il arrivera sur l'eShop, en plus des deux autres opus déjà disponibles.
Oui, il y a quand même beaucoup de chances qu'il arrive. Hein.
Il y a, ouais, beaucoup de chances.
Super Mario Land 2 est déjà dispo, c'est ça?
Oui, il est
apparemment,
dispo.
Les deux premiers.
Non, je confirme, hein. Je les
D'accord.
ai achetés.
La fin d'année manque de jeux. Alors, il fallait bien en rajouter un dans le lot.
Oui, c'est très bon ça. FM manque beaucoup de jeux. Alors oui, beaucoup de membres l'attendent. Hein. On lit beaucoup de commentaires sur ce jeu. C'est BlazBlue Quantidium Shift 2 sur 3DS qui a été annoncé pour le 4 novembre 2011 en Europe.
C'est bientôt tout ça.
Oui, bah oui, c'est, mine de rien, c'est dans même pas un mois, quoi. Donc la fin d'année, ça commence très très bientôt. Et elle va être chargée. Mais c'est bon pour la 3DS aussi.
Du nouveau avec Nintendo dans les tribunaux.
Oui, donc Nintendo a vraisemblablement eu un avocat aussi bon que Phoenix Wright, puisque la vente des linkers en France, qui était le dernier pays à ne pas l'avoir interdit, vient d'être tout simplement interdit en vente. Donc voilà, c'est une décision de la Cour d'appel de Paris qui a donné la sentence pour toutes les personnes vendant les petites R4 que vous mettiez dans... ou que vous mettiez pas.
Ouais, enfin c'est bien de prendre la décision 6 ans après,
6 ans,
après
ouais,
le lancement de la DS.
C'est ça, 6 ans après, donc voilà, des amendes allant de 500 000 euros à 4,8 millions d'euros pour dans la poche de Nintendo. Donc voilà, ça va faire très très mal aux petites entreprises qui vendaient ces R4.
Ouais, enfin c'est... T'es bien sympa de penser à Arulz.
Oui, moi j'ai aucune objection là-dessus. Hein.
Aucune objection?
Non.
Nickel. Et ben voilà, on espère que le piratage va être un petit peu aboli.
Ouais. Ouais, là tu rêves là.
Enfin, voilà, la décision arrive un peu tard.
Ouais.
Mais en tout cas, ça aurait été un vrai désastre. Personnellement, tous les gens que je connais ou que je croise avec une DS avaient un linker dans leur console. Hein.
Bah enfin, oui, bien sûr. Le mal est fait, hein, là, c'est terminé. 6 ans après, le mal est fait. Tout le monde, comme tu le dis, a déjà acheté son linker. On va pas en acheter 4 autres. Hein.
Ça a surtout fait mal aux éditeurs tiers, hein, je pense.
Oui, oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis un an, même un an ou deux, on n'a plus de jeux d'éditeurs tiers sur DS. Hein.
Ouais,
tout est clair.
Resident Evil arrivera plus tôt que prévu, finalement, Arulz.
Oui, effectivement. Alors, il a été annoncé pour le 27 janvier 2012, donc le premier jeu de début d'année 2012 sur la Nintendo 3DS. Ça va faire vraiment plaisir aux fans de Resident Evil parce qu'ils ont été sûrement très 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 déçus de Mercenaries qui était qu'un mode de jeu. Avoir enfin un vrai Resident Evil sur la 3DS, je pense que beaucoup de personnes vont être contentes.
Mais par contre, est-ce que ça veut dire que le stick analogique sera disponible au même moment ou pas ?
Je crois que le stick arrivera à la fin de l'année au Japon. Donc il y a forte chance qu'il sera disponible avec Revelation. Mais en ayant testé le jeu, je pense qu'il en avait pas vraiment besoin.
Non, je vous confirme, hein, il sera bien compatible avec le style.
Oui, mais est-ce que le stick oui. sera disponible
bien sûr que
en
oui.
même temps
que... Bien sûr que oui.
En même temps, ouais, on verra.
Moi, je pense.
Alors, cette semaine, pour le débat, on a décidé de fêter les 10 ans d'une console qui nous est chère dans
oui,
nos cœurs.
Ah oui, carrément, très très chère.
Là, le GameCube, le GameCube selon Nintendo de manière officielle.
Le GameCube chez moi aussi.
La GameCube pour moi.
La GameCube de manière peut-être un peu plus dans le langage des joueurs.
Oui.
Bon, on va dire un peu les deux, je crois que chacun va...
Bah chacun a sa part, sa façon de le lire quoi.
Et alors, on va faire une petite rétrospective, un peu refaire, revoir un peu ce qui a été marquant sur cette console.
En 10 ans.
Ce qui a réussi, ce qui a été moins réussi. En tout cas, le GameCube à la base avait un autre nom, c'était le projet Dolphin. Mm. On se souvient qu'à l'époque, Nintendo était vraiment en crise avec la Nintendo 64 qui n'avait pas rencontré le succès
espéré,
puisque Nintendo avait été leader avec sa NES et puis sa Super Nintendo. Sur Nintendo 64, c'était vraiment pas le cas. Nintendo devait rebondir.
Ouais, et le nom Dolphin, ça, je me souviens que ça faisait rêver, ça m'a fait rêver en tout cas. Les présentations aux conférences étaient magnifiques, je trouvais.
Justement, c'est vrai que là, Nintendo a déjà retenu une bonne erreur de la Nintendo 64. C'était déjà l'annonce du support optique, fin des cartouches. On allait enfin pouvoir stocker beaucoup plus de données sur les disques. C'était aussi l'abandon du partenariat avec Silicon Graphics.
Exact.
Alors Silicon Graphics, si vous vous en souvenez, sur Nintendo 64, c'est vrai que Nintendo avait voulu vraiment mettre en fait le paquet avec des graphismes hallucinants. Donc ils avaient fait appel à cette boîte qui faisait les effets spéciaux pour Hollywood, sauf que une fois dans le jeu vidéo, finalement c'était assez complexe pour les développeurs.
Ça s'est senti d'ailleurs pour la 64, il y avait beaucoup toutes les exclus partaient sur PlayStation et
exactement, très complexe à développer. Et finalement voilà, Nintendo donc support optique, l'arrivée d'IBM pour le processeur, l'arrivée d'ATI pour la carte graphique.
Ça, je pense que ça a changé beaucoup. Les processeurs et cartes graphiques ont vraiment démocratisé le développement des jeux sur la console, chose qui était déjà le cas sur Sony.
Oui, là, tu m'as complètement perdu, mec. Hein, les spécificités techniques de la carte graphique, du processeur et tout, parce que c'est vraiment très, très, très important. Oui,
c'est
quelque chose de bien, mais bon, est-ce qu'on va vraiment rappeler ça ?
C'est un élément vraiment majeur. Parce que c'est la preuve que Nintendo a vraiment est revenu sur ses erreurs de la génération passée.
Oui.
Et la preuve, c'est que les éditeurs sont revenus en masse
voilà.
développés sur,
c'est vrai,
sur
c'est vrai.
GameCube.
C'est vrai.
Sur 64, il y avait franchement presque pas d'éditeurs tiers. Enfin, il y en avait évidemment,
ouais,
mais
très peu quand même.
Ouais, il fallait les compter quoi.
Alors, autant dire, on va tout de suite en parler. C'est le retour de Square. Square qui avait boudé la Nintendo 64, il y avait vraiment eu un gros clash. Donc le retour de la saga Final Fantasy sur une console Nintendo. Capcom revient en force, on va développer un peu ça, mais avec la saga Resident Evil et une série d'exclusivités. Puis il y a Konami qui adapte Metal Gear Solid.
Voilà.
Qu'il a totalement retravaillé. C'est-à-dire que ça a été une exclue majeure de cette console quand même. On a tous entendu une remasterisation de Metal Gear Solid 1. Même encore aujourd'hui, les gens la réclament sur une console HD. Ça n'a jamais été annoncé autre part que sur cette GameCube. On a vraiment un jeu totalement génial qui a été retravaillé pour cette console.
Toi, t'es un défenseur de ce jeu. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens finalement qui... en veulent un peu à ce remake. Bon, déjà parce qu'il intégrait les nouveautés de Metal Gear Solid 2.
Et c'est une bonne chose.
Objectif, mais qui rendait peut-être le jeu un peu trop
beaucoup
facile.
Plus jouable. Mais beaucoup plus jouable quand même pour les gens qui n'avaient pas l'habitude sur Metal Gear Solid 1. Les boss, il y a certains moments sur le 1, t'as eu du mal. Hein. Là, c'était plus simple. Oui, t'as de la jouabilité facilitée, mais c'est beaucoup plus beau.
Et les cinématiques avec Sweet Snake qui rebondit sur des missiles en sautant dessus tout.
On oublie. Non.
D'accord, ok. Non, parce que c'est vrai que finalement il y avait des libertés prises sur ce remake.
Ouais, il y a eu
un
des libertés, c'est vrai. Je suis d'accord. Tout n'est pas bon, hein. Mais dans la façon de faire, retravailler ça comme un Metal Gear Solid 2, c'est quelque chose qui était vachement attendu pour les fans. Par les fans, je veux dire, quand un jeu t'a marqué autant que ça, l'avoir retravaillé avec des graphismes. Vachement amélioré, ça fait super plaisir.
Metal Gear en est peut-être le meilleur représentant, mais c'est vrai que finalement, toutes ces licences qui avaient fait le succès de la PlayStation,
voilà, c'est toutes les licences de la PlayStation
sont arrivées sur GameCube, exactement.
C'est devenu
des
multi-plateformes en fait, comme on connaît aujourd'hui avec la Xbox et la Xbox 360 et la PS3. Donc c'était un peu le même système sous l'ère Iwata, justement, le nouveau président qui est arrivé à cette époque-là.
Donc, ah oui, parce que ça, il faut bien préciser, c'est-à-dire que la console a été conçue sous l'ère Yamauchi,
voilà,
qui était l'ancien président,
le créateur de la société.
Mais après, c'est Iwata qui a succédé à lui pendant justement l'ère GameCube.
Donc il y a une cadence des jeux un petit peu revue à la hausse, donc ce qui a été assez d'ailleurs décrié par les joueurs. Parce que certains étaient, on va le dire, hein, franchement, bâclés.
Alors justement, on va peut-être on peut en parler. Finalement, Nintendo, c'est vrai, a augmenté un peu la cadence des jeux. Du coup, on a eu ces grosses licences qui ont fait polémique. C'est vrai que oui. Super Mario Sunshine,
voilà,
a fait
par exemple, je ne l'aime pas.
Alors, et moi, je l'aime.
Ah, alors là, c'est intéressant.
Donc voilà, c'est la polémique.
Ouais.
Donc,
Rahul, oui.
Moi, c'est un jeu que j'ai apprécié beaucoup sur cette GameCube.
Alors justement, je pense que c'est un jeu qui est très appréciable, mais est-ce que Nintendo a voulu conserver ce système des 120 étoiles qu'il y avait dans Super Mario 64, mais a fait du remplissage, si vous voulez dire ce qui est.
Mais c'est ça qui
quand on retrouve le même boss pieuvre 3-4 fois à battre de la même façon.
Oui.
Les pièces bleues.
Excuse-moi, c'était pareil dans les Super Mario de l'époque. Hein.
Non. Il y avait
Bowser où tu devais passer dessous pour aller appuyer sur le interrupteur, arrête.
Non mais ça...
Non, c'était la même technique.
Là, on parle d'un Super Mario 3D, on va dire.
Ouais, mais bon.
Là, les Super Mario Bros. Ah voilà, c'est pas pareil. Là, tu parles des Super Mario Bros.
Oui, je parle des Super Mario.
Là, on parle des Super Mario. Donc, voilà, c'est vrai que les boss, c'était assez.
Et puis, au-delà de ça, je pense que je me souviens plus exactement, mais il me semblait qu'il y avait à peu près, 70 étoiles à récupérer, 80 étoiles à récupérer. Ouais, puis après, c'est les pièces bleues.
Voilà, il y en avait beaucoup moins.
Vous avez récupéré 5 pièces bleues dans les niveaux et puis vous avez une étoile. Alors là, c'est le truc facile pour faire comme ça augmenter la durée de vie.
Ouais, peut-être. Mais j'ai trouvé l'idée du petit propulseur.
Ouais, bon,
je trouvais ça
sympa.
Super sympathique le fait d'avoir. Pouvoir tirer de l'eau. Bon. Pouvoir avancer vite avec son gel. Non, je trouvais ça sympathique. Le gameplay était sympa.
T'as raison de parler de ça justement parce que c'est vrai que du coup, autant Nintendo sur Nintendo 64 se servait de la 3D comme d'un argument d'innovation. Autant sur GameCube, c'est vrai qu'il fallait trouver des nouveautés pour ces grosses licences.
Voilà, exactement, c'est quand même une prise de risque.
Mais finalement, est-ce que la buse, est-ce que on l'a pas revu vraiment
Non, on l'a pas revu.
Ça
n'a
pas été un immense succès.
Non, parce qu'il a été boudé le jeu, comme vous le dites. Hein, il a été boudé.
C'est le Mario le moins vendu apparemment. Donc c'est clairement le jeu qui a fait polémique. Mais bon, c'est pas le seul en même temps de l'ère GameCube quand
alors,
on voit.
Alors enfin, un autre jeu qui a fait justement polémique, puisque on se souvient à l'époque de la présentation de la GameCube au tout début, on avait vu des images, c'était Zelda.
Voilà, sous le nom Dolphin, je crois encore, ou peut-être.
Ah, c'est déjà GameCube.
C'était déjà
GameCube, mais c'était des images d'un combat avec Ganondorf de manière super réaliste.
Un peu comme on a vu à l'E3 sur Wii U par exemple, pour donner un petit comparatif.
Et un véritable grand fracas lors de la présentation finale du jeu, Wind Waker. En cel shading, comme on dit, sous forme de dessin animé.
Coup de maître.
Mais encore une fois, je vais jouer mon relou.
C'est pas grave.
C'est mon Zelda, le Zelda que j'ai le moins apprécié. Après,
et moi, c'est le premier que j'ai fini.
Bah voilà, mais.
Il
était
court,
tu n'étais pas un fan de Zelda, c'est le premier.
Non,
en tout cas,
c'était
une sacrée prise de risque à ce niveau-là.
Aussi, c'est encore une nouvelle prise de risque sur sa GameCube.
Le jeu était. Franchement, il était très bon, le jeu. Mais
très beau aussi.
Ouais, très beau, mais
il a très bien vieilli. Ça, c'est vrai que.
Ouais, parce qu'aujourd'hui encore, tu rejoues sans aucun problème.
C'est clair.
Il n'y a pas de polygone, il n'y a pas de tout ça.
Il était tellement court par rapport aux autres jeux.
Justement,
oui.
Là encore,
il était court.
On a vraiment le syndrome jeu sorti un peu rapidement. On se souvient par exemple, je ne sais pas si on se souvenait, on arrivait devant le Jabu Jabu, qui était peut-être la troisième. Vous savez, il y a toujours la quête des trois médaillons.
C'est le troisième, toujours.
Et donc, on vient pour récupérer le troisième emblème. Et en fait, il nous le donne directement.
Bah oui, parce qu'il est parti se réfugier, je sais plus où.
Finalement, non, le donjon, on l'a squeezé.
Donc voilà, c'est clair. Mais moi, c'est ce qui m'avait choqué. Bon, après, on a toujours on a les îles, on peut se balader d'île en île pour toutes les visiter, mais bon,
il y en a beaucoup en plus. Hein.
Mais c'est pas ce qui fait le charme d'un Zelda, je trouve.
Il y a deux, trois petits trésors à trouver.
Ouais.
Alors, parce que c'est vrai que c'était peut-être aussi un souci sur ce Zelda, c'est que finalement, la construction du monde était très. Artificielle. On avait un système finalement de bataille navale où on avait des cases Et grosso modo, on va à chaque case, on met une sorte de nourriture pour poissons, on pêche, on a la carte, on fouille l'île, on passe à la case suivante. Enfin, c'était mécanique. Hein.
C'était mécanique, mais c'était moi ça, c'était pas le ce qui m'a le plus dérangé. Moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est les graphismes et la durée de vie.
Toi, ça t'a dérangé les graphismes ?
Ouais, parce que j'ai étant fan de Zelda, je me suis dit oula, ça m'a un peu sorti de l'ambiance Zelda. Les musiques étaient très belles aussi, mais voilà, pareil, j'avais l'impression que elle me sortait de l'ambiance.
Pour revenir deux petites secondes sur la map, hein, t'as pas peur que ça fasse un peu pareil avec Skyward Sword ?
Alors, on verra bien, mais pour l'instant, je n'ai
aucune
idée.
Parce que c'est quand même des espèces d'îles, hein, enfin, en l'air, mais c'est quand même des espèces d'îles. Hein.
Mais après, ouais, non, après, la map océan, moi, ça m'a pas dérangé.
Alors, je pense que pour les joueurs, pour toi, finalement, Nintendo s'est fait pardonner avec la sortie sur GameCube de Twilight Princess.
Ouais.
Qui reste un jeu GameCube, mais
reste un jeu GameCube.
C'est important de le souligner. Bon, la sortie a été éclipsée clairement par la Wii.
La Wii.
Mais la version Wii reste un remake, de la version GameCube, et c'est finalement, enfin, ça restera un jeu GameCube. Là, il faut dire que la saga Zelda a vraiment été mise à l'honneur sur GameCube.
Ah, c'est clair.
Deux épisodes 3D.
Oui.
Ce qui est assez rare pour être souligné.
Des remasterisations.
On a eu les remasterisations, comme tu le dis, de Zelda
Ocarina
Majora's Mask.
Il me semble qu'il y avait Ocarina of Time,
Majora's Mask.
Voilà.
Le Zelda NES. Le
Et c'était
Zelda,
même les Master Quest, hein, les remasterisations.
Exactement. Ouais. Et puis il y a eu l'épisode 2D Force World. Finalement, c'était un peu comme aujourd'hui on a Super Mario Bros. Wii où on peut jouer à 4. C'était finalement le Zelda 2D où on pouvait jouer à 4 tous ensemble.
Bon, c'était un peu plus compliqué, mais c'était dans l'idée. Donc oui, Zelda a carrément été mis à l'honneur sur GameCube.
Saga d'ailleurs qui a mis à profit la connexion avec la Game Boy Advance. Alors c'était une des grosses nouveautés. Mise en avant par Nintendo sur cette génération. On s'en servait d'ailleurs dans Wind Waker, on s'en servait dans Force World. Alors Arus me fait des gestes.
Ça a pas super bien marché, mais dans l'idée c'était franchement excellent. D'ailleurs,
dans l'idée c'était intéressant, mais
c'est
naze.
On le revoit aujourd'hui, les consoles de cette génération prennent cette idée.
Ouais, entre guillemets. Enfin bref, moi je trouve que c'est une mauvaise idée, entre guillemets. Ça a été très mal exploité. Enfin, c'est même pas l'idée qui est mauvaise, c'est l'exploitation que Nintendo en a fait. Le truc avec Tingle là, ou Tingle, je sais pas comment vous dites, c'était c'était chiant, c'était long, c'était inintéressant.
Mais avec Force World, t'as pas le droit de dire que c'était nul. Franchement,
alors,
je l'ai pas fait
sur Force World.
C'était franchement excellent.
Mais l'adaptation sur Wind Waker, c'était naze, il fallait pas mettre ça. Pas mettre en valeur le truc.
Ah ouais, non, clairement. Surtout que c'est une fonctionnalité que Nintendo avait vraiment tendance à pousser à mettre en avant.
Oh, mais c'est beaucoup trop cher.
Je sais pas si vous en souvenez, quand vous achetiez votre Game Boy Advance, au dos, il y avait la GameCube dessus.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'est
vraiment pour mettre en avant. Alors, peut-être aussi que c'était une manière, peut-être justement, d'attirer les joueurs Game Boy vers la GameCube pour justement essayer de relancer, enfin, disons, de gagner en vente. Mais bon. Autre nouveauté qui a fait polémique, alors toujours dans cette innovation, parfois pas forcément toujours très réussie de Nintendo, c'est le Mario Kart qui a fait débat
Double
sur GameCube.
Et cette fois-ci, je suis heureux de l'avoir vu.
Et moi aussi.
Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment du 109 à la série.
Qu'il était fun ce Mario Kart.
Ah là là, mais attendez les mecs, je suis pas du tout d'accord. Mais alors c'est vraiment pour moi le plus mauvais épisode de la saga.
Ah non, t'es dur, il est sympathique.
Dur, ouais.
De pilote et tout, c'est sympa, moi je trouve ça marrant.
En coordination et tout, c'était magnifique.
C'est vrai,
les objets à chaque personnage,
ouais,
les objets spéciaux.
Exactement.
Non, mais finalement ça servait strictement à rien, puisque en fait sur les un joueur, on pouvait maintenir un objet en restant appuyé sur le bouton derrière soi. Et puis on
c'était
en prend un autre.
C'est ça. J'ai dit exactement la même chose que Crayo. C'est stratégique.
Oh non, et puis, ça prenait,
tu gardais ton objet ou tu le tirais.
Ça prenait une autre dimension en multijoueur.
Et les circuits sont les plus mauvais.
Les circuits sont les plus mauvais.
Ils sont pas top, c'est vrai. Non, on va pas se mentir sur les circuits, mais le gameplay était sympathique. Et de mettre deux pilotes, c'était sympa aussi.
L'idée était pas mal.
Non, t'as pas l'air d'accord.
Non, il est pas d'accord.
Ah non, pour moi, c'est vraiment le plus mauvais épisode.
De toute façon, Mario Kart.
Ça reste une valeur sûre.
Une valeur entre guillemets sûre, ouais.
Bah oui, quand on voit les nouveautés qui vont nous apporter sur la version 3DS, se dit qu'elle n'est pas morte, la série.
Ouais, mais les nouveautés sont pas non plus exceptionnelles. Hein.
Tu vas te plaindre encore des nouveautés.
Oui.
On te rajoute des choses et t'es encore pas content.
Alors justement, une licence qui va faire bientôt son retour sur 3DS et qui avait été mise en avant lors du line-up de la GameCube, c'était Luigi's Mansion. Finalement, c'était un peu du 109, ça, c'est vrai.
Ouais,
qu'est-ce que j'ai aimé, ce Luigi's Mansion. Qu'est-ce que j'ai pu passer des heures là-dessus. C'est un des rares jeux que j'ai refait en mode miroir, tellement j'avais apprécié ce jeu.
Au point de compenser la sortie d'un Mario en line-up.
Ouais, moi je pense que oui, franchement. Aussi, c'était un jeu qui était très appréciable et qui pouvait très bien compenser son frère, Mario, absent donc du line-up.
C'est un jeu de... On peut dire que c'était un jeu de plateforme, mais enfin, je sais pas si vous pouvez l'appeler comme
ouais,
ça. Enfin,
ouais, un peu, non, un peu du
survival horror.
Plutôt survival horror.
Cartoon.
Survival horror cartoon.
Ouais, on va dire ça. Et puis qui mettait à profit aussi le second stick, puisque alors voilà, une des nouveautés, on en a pas encore parlé, mais c'est la manette.
La
nouvelle manette GameCube, donc avec le second stick, et c'est vrai que c'était un des jeux qui mettait à profit.
Ouais, et très bien d'ailleurs, hein, chose qu'il nous manque sur la version 3DS qui va sortir, hein, comme tu le disais. Le fait de pouvoir donner des à-coups pour capturer un peu plus vite son fantôme, ça donnait une interactivité supplémentaire au jeu.
Alors justement, cette manette, finalement, vous en pensez quoi avec le recul ?
La première fois que je l'ai prise en main, je me suis dit qu'elle était, franchement, les ingénieurs ont fait un moule spécial pour
c'est...
nos mains.
Ouais, je suis d'accord, c'est une des meilleures manettes que Nintendo a sorties à ce jour.
Les gâchettes, elles étaient magnifiques.
Elles étaient super bien placées.
Voilà. Ah bon, après il y avait peut-être le bouton Z un peu ou...
ouais, non, ça allait ouais. Quand même. Enfin, bon.
La croix un petit peu, non, pas trop utilisée.
Mmh. Non, c'est vrai. Jamais. Mais...
La preuve d'ailleurs de la qualité de cette manette, c'est que finalement, aujourd'hui encore, elle est compatible avec beaucoup de jeux Wii.
Ouais, bah pour moi, ça reste la meilleure.
Mario Kart, Smash Bros. Exact. On tire encore parti.
Ils ont toujours ajouté sur les jeux grosses licences Nintendo cette compatibilité avec cette manette.
Alors, du côté des éditeurs, ça a été un tournant vraiment pour Nintendo. Ça a été le départ de Rareware. Sur cette génération
qui avait fait le grand bonheur de la 64. Donc
autant dire vraiment que sur 64 il n'y aurait pas eu Rare.
Ouais, il y avait que les licences Nintendo quoi.
C'était le désert.
Il y avait que ça. On a vu que le départ de Rare sur cette console rachetée par cédée à Microsoft était vraiment quelque chose qu'on n'a pas trop compris, surtout
c'est vraiment hallucinant. C'est-à-dire que je vais faire des comparaisons complètement stupides. C'est James Bond qui va se battre contre les Russes et qui dit écoutez, je vous passe la bombe nucléaire si vous voulez, quoi, je vous la donne.
C'est vrai.
Ah oui, comparaison très absurde, effectivement.
non, mais c'est totalement ça en plus. On sait pas pourquoi ils ont. Enfin, moi j'ai peut-être une idée, mais.
Bon, alors, avec le recul.
Avec le recul, après, on comprend la
décision de Nintendo. Puisque finalement Rareware n'a plus fait grand chose et puis aujourd'hui on les voit limités à des jeux Kinect
mauvais jeux Kinect.
Voilà, et faire aussi les Mi, je crois, la version Mi sur Xbox.
N'en parlons pas.
Oui, et puis
c'est vrai que c'est pas un beau destin pour
ces studios.
Ils se sont cassés la gueule. Hein.
Oui, ils ont aussi laissé un goût amer pour les fans de Star Fox, il faut le dire, avec un opus Adventure.
Si, moi je suis d'accord.
Beaucoup de personnes n'aimaient pas en tout cas.
Il m'a déçu.
J'ai vraiment du mal à comprendre cette déception vis-à-vis de ce jeu parce que je le trouve vraiment brillant. Avec un univers absolument génial, une réalisation mais bluffante, une aventure épique,
j'ai pas vraiment
variété de gameplay, des musiques mais extraordinaires.
J'ai acheté du net. Hein.
j'ai pas trop apprécié.
Ah,
mais
moi
bon.
Non plus.
Après,
c'est
au goût.
C'est celui qui m'a décidé d'arrêter complètement.
Ah ouais.
C'est au goût de chacun après, mais bon voilà.
Pour moi, c'est là que Rare a commencé à tomber.
Alors ce qui est marrant, c'est que finalement, dans le même temps, au moment où Nintendo a cédé Rare à Microsoft pour une belle fortune, hein, je crois que c'était des centaines de millions de dollars,
ils se sont mordus les doigts aujourd'hui Microsoft. Hein.
J'imagine, ils ont acheté sur eux, enfin, ils ont peut-être fait un peu arnaquer sur l'histoire. Finalement, Nintendo a réinvesti ailleurs, a réinvesti sur des petits studios, notamment. Alors exactement, qu'est-ce que tu peux nous en dire ça, Cré ?
Ouais, donc ils ont réinvesti dans, par exemple, Retro Studio, encore aujourd'hui qui fait des jeux franchement très bons. On va citer la série Prime des Metroid. Enfin, ça a été des chefs-d'œuvre.
Alors, ce jeu qui a fait cette apparition justement sur GameCube, c'était un sacré défi, mine de rien. Parce que, bon, déjà, Nintendo laisse la licence Metroid à ce petit studio texan.
Ouais, il fallait le faire.
Déjà, c'est fait l'oser. Et puis, ils sont passés en vue FPS pour Metroid, quand même.
Oui, et puis l'ambiance solitaire également, qui était vraiment, vraiment présente dans le 1 et le 2, un peu moins dans le 3. Donc, ça a été, je pense, quelque chose de vraiment frappant dans la saga de Metroid. Et également la petite recherche, toutes les petites recherches autour dans l'environnement qui étaient vraiment sympathiques.
Ça sera vraiment un des événements marquants de l'ère GameCube. Alors, on est encore dans les choses vraiment historiques.
Là, oui.
Les anciens ennemis.
Ouais,
c'est
Sega
et Nintendo qui. Alors, on nous aurait dit ça. À l'époque,
on aurait dit que c'était impossible.
Impossible.
C'est comme si, en gros, Nintendo, dans 10 ans, on voyait Mario sur PlayStation.
Voilà,
c'est exactement pareil.
Exactement. Sonic qui débarque sur GameCube.
Alors ça.
Sonic qui débarque sur une console Nintendo.
Ça, c'est quelque chose de très fort, hein, parce que c'est les pires ennemis qui pouvait être à l'époque, c'était Sega et Nintendo, et de faire débarquer un personnage en fait culte, hein, parce que c'est quand même le personnage que tout le monde retient de chez
c'est
Sega.
C'est l'ennemi de Mario.
L'ennemi de Mario, un peu, ouais.
Il a été créé pour le contrer, donc
oui.
C'est son ennemi.
C'est vrai. Le voir débarquer sur la console de chez Nintendo, c'est une révolution.
Enfin, c'est une révolution, c'est juste que Sega avait besoin d'argent, c'est tout, hein. Faut pas se cacher.
Mais toi,
pas...
tu vois ça comme non, ça, mais... tu vois non, ça mal.
Moi, ils avaient besoin d'argent, Sega.
Oui, bien sûr qu'ils ont besoin d'argent, mais que... ils ont débarqué quand même chez Nintendo, ils auraient pu se cantonner à la PS2 et à la Xbox. Hein.
Au-delà de Sega, un autre éditeur qui a fait vraiment le succès de la GameCube, c'est Capcom. Série Resident Evil exclusive chez Nintendo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la saga ressort en intégralité sur la console. Le premier en remake.
Voilà, enfin, enfin, comme tu viens de le dire, toute l'intégralité de la saga et Resident Evil 4.
Quand même. Et le 0. Bon, alors le 0 qui restera peut-être 0, un peu plus anecdotique.
Voilà, mais Resident Evil 4 qui a été la grosse exclusivité de fin de vie de la GameCube.
Ah ouais,
mais
sacré événement.
Exclusivité, encore une fois, temporaire.
Alors voilà, alors là c'est très intéressant ce que tu dis parce que finalement Capcom aura annoncé. Les Capcom 5. Alors, Capcom 5, c'était 5 exclusivités pour la GameCube. Alors, je sais pas si vous imaginez aujourd'hui. Imaginez aujourd'hui Capcom qui dit voilà, nos 5 prochains jeux, c'est des exclusivités Wii, quoi. Ouais. C'était un événement assez extraordinaire. Il y a eu Beautiful Joe.
Oui,
sera
très bon, très bon.
Un très bon jeu, mais qui sera finalement porté sur PS2.
Voilà, exclusivité temporaire.
Voilà. Killer 7.
Ouais,
de Suda 51.
Celui-là, ouais. Alors, lui,
également porté sur la PS2. Parti, ouais.
Sera finalement également porté sur PS2. Il y aura eu PNO3, Project Number 3. Alors là, qui restera une exclusivité GameCube, il ne sera pas forcément un jeu extraordinaire.
On se demande pas pourquoi, hein, pour une fois. Hein.
De Mikami, une sorte de jeu high score, de danse, shoot. Enfin, c'était assez spécial. Il y avait Project Phoenix, un jeu genre Panzer Dragoon. Qui
moi, je le connais pas. Alors là, pas du tout.
Mais tu sais pourquoi?
Il est pas sorti?
Il a été annulé.
Ah bah voilà. Donc c'est Capcom 4.
Ça explique tout, ça explique tout.
Et puis après, donc, il y avait le Resident Evil 0 et Resident Evil 4. Donc finalement, c'est vrai que les exclus...
celles qui ont fonctionné
5,
ont finalement été portées sur les autres consoles.
Voilà. Ça restera juste des exclusivités temporaires. Mais voilà. Mine de rien, ça sera quand même un beau support.
Bah
temporaire.
Ça les a aidés à vendre la console, hein, clairement.
Temporaire, il est pas sorti 2 mois après, quoi. Il y avait quand même...
Oui,
moi je pense
marge.
Qu'il y avait une au moins
c'était
un
pas
an.
La vie de c'est pas la fin de vie de PS2 quand c'est sorti.
Non, mais c'était la fin de la GameCube en tout cas.
Alors une autre pratique qui avait marqué sur cette génération, c'est finalement Nintendo qui prête ses licences. Alors ça, je veux dire, c'était quelque chose d'assez nouveau. Bon, même s'il y avait déjà eu Mario sur Super Nintendo, Mario RPG développé par Square, il me semble. F-Zero, voilà, qui est quand même une licence très importante de Nintendo, développée par Sega, l'ennemi juré.
Ouais, le GX.
Le GX. On en a parlé d'ailleurs à un Créo, c'était le podcast dernier, me semble.
Oui, c'est ça, donc c'était la licence préférée, je crois. Donc voilà, il a été
donc
vraiment...
Donc ça fait 2 podcasts. Hein.
Il a été vraiment, vraiment apprécié par les joueurs. D'ailleurs, on ne l'a plus revu depuis la GameCube. Et voilà, donc une preuve que Nintendo avait besoin également des éditeurs tiers pour développer leur jeu. On voit aussi, on pense également à Star Fox Assault, qui a été développé par je ne sais plus quel...
Namco
Bandai.
C'est vrai qu'à l'époque, Nintendo s'était dit, on va prendre les mecs qui font Ace Combat, qui était un peu la référence à l'époque du shoot. Et bon, le résultat...
Non, on va pas en parler encore une fois, on l'a déjà dit. Hein.
Voilà, résultat plutôt mitigé sur ce jeu. Toujours avec Namco, Soul Calibur 2.
Oui, exact.
Avec Link dedans.
Link, le personnage bonus quoi, de la version GameCube. Et,
ce qui aura permis à la version GameCube d'être la version la plus vendue des trois. Hein,
parce que
la PS2,
beaucoup, beaucoup voulaient absolument jouer avec Link, donc voilà.
Là où c'est drôle, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, pour avoir ce genre de personnage bonus-là, des fois, ce sont des DLC ou des versions collector. Hein. Aujourd'hui, on nous les vend, alors qu'avant, on nous les mettait directement dans les jeux. Hein.
Ça, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant de personnages, Mario qui débarque dans SSX.
Alors ça, complètement sorti de nulle part.
Surtout que c'est pas du tout le même style graphique.
Ah bah non, pas du tout. C'est
donc,
je me souviens
c'est
de...
assez choquant de voir un Mario dans SSX.
Ah oui, alors je me souviens encore
de
cette image de Peach en train de faire du ski sur la piste SSX.
Ouais.
C'était assez
drôle.
Alors pour terminer cette tournée des jeux, on va faire peut-être chacun un jeu marquant de la GameCube. Alors Arius, pour commencer.
Alors oui, moi un jeu marquant, mais dans le mauvais sens, hein, dans ce cas-là, ce sera Pikmin.
Ah, je sais. Nouvelle licence de Nintendo sur cette génération.
Il a été beaucoup apprécié par pas mal de monde.
Énormément
mais moi,
apprécié même, j'ai envie de dire.
C'est un jeu que j'ai détesté. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot pour moi.
À ce point.
Ah ouais, la question de temps où il fallait remonter dans la fusée, où il fallait aller se coucher ou je sais pas quoi là. Ça m'a saoulé, mais un point, le déterrer ces trucs, allez. Oh, ça m'a saoulé, ce jeu m'a saoulé, je suis désolé, il y a pas d'autre mot, il m'a saoulé.
Oui, mais bah, ça a quand même marqué la GameCube.
J'ai détesté.
Quelque chose peut-être de plus enthousiaste, Crayo ?
Oui, donc moi c'était la série Time Splitter, donc le 2 et Future Perfect, donc qui était magnifique, le mode multijoueur, je m'en souviendrai tout le temps, un peu le mode multijoueur GoldenEye sur 64.
J'avais adoré aussi.
Là, c'était pour la GameCube, le solo même parfait également.
Bah pour le coup, c'était les développeurs, c'était des anciens de Rare qui avaient bossé sur GoldenEye.
J'allais le dire, donc voilà, pour moi, c'est ce qui m'a le plus marqué.
Mais en bien cette fois.
En bien, en très bien même.
Oh bah alors.
Et toi, dis-moi, Théox.
Pour terminer, je pense qu'on pourrait pas faire l'impasse sur Factor 5 qui a livré deux Star Wars éblouissants. Notamment Rogue Squadron 2, Rogue Leader, au lancement de la GameCube. Enfin, ça a été un jeu qui a juste bluffé, d'avoir le sentiment d'être dans les films directement.
Ah ouais, c'était beau.
Et une qualité graphique époustouflante, un gameplay absolument génial, enfin, un jeu phénoménal. Là encore, on en avait parlé tout à l'heure de Rare, mais Factor 5, qui, très rapidement, au lancement de la Wii, était tellement dégoûté finalement par le choix de Nintendo de faire une console aussi peu puissante, était parti sur PS3, a fait le jeu L'Air, je sais pas si vous vous en souvenez, jeu de dragon
assez mauvais,
je préfère éviter de m'en souvenir.
Le studio a fermé ses portes,
ouais.
voilà. C'est très triste quand on voit vraiment la capacité
d'autant que
de ce studio
au jour d'aujourd'hui, des jeux Star Wars potables, on en a plus les masses, hein.
Non, ça c'est vrai. Ça, c'est clair. Alors, allez, vous, justement, alors, quels jeux vous ont marqué sur GameCube ? Alors, on va aller vite voir du côté de Skype. Jamifra, ça va bien ?
Ça va et vous ?
Très bien.
Ça va nickel.
Très bien. Alors, pour toi, Jamifra, qu'est-ce qui t'a marqué sur GameCube ?
Bah, moi, c'est surtout l'arrivée des Pokémon qui étaient mieux faites que sur Pokémon Stadium.
Pokémon Colosseum, donc.
Voilà. Puis Pokémon XD par la suite.
Exact.
Exactement. Où, en fait, finalement, on avait, c'est vrai, une partie aventure.
Oui, on avait une partie aventure et on pouvait aussi combattre avec ses Pokémon de sa DS.
Des versions Game Boy Advance.
Pardon, de la version Game Boy Advance donc. Et on pouvait donc aussi, pareil que sur la N64, les transférer
Non, il me semble pas. Non, la N64, il me semble pas. Peut-être, mais il me semble pas.
Mais donc moi, je connais pas du tout le jeu, mais c'était quoi comme style de jeu ? Une aventure RPG comme les cartouches Game Boy ou...
Ben, c'était sur un style différent, on devait arrêter une organisation maléfique, entre guillemets.
D'accord.
Pour sauver des Pokémon, et donc on pouvait leur en prendre certains, les Pokémon obscurs, et voilà.
C'est une sorte de RPG.
Voilà, un peu, en combat.
Sauf que finalement, il y avait beaucoup moins de Pokémon, et on les trouvait pas à l'état sauvage, en fait. C'est à chaque fois.
Voilà, c'était très 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 limité. Il y a eu ensuite, par Pokémon XD, un moyen d'en avoir des sauvages, mais seulement un 9, donc c'était pas beaucoup.
D'accord. Par contre, moi, personnellement, ce que j'avais adoré dans Pokémon Stadium, c'était les mini-jeux. Je veux dire, à plusieurs, on a tous fait les mini-jeux sur Pokémon Stadium, avec par exemple Abra, où il fallait l'entourer autour des Topikers, tout ça. C'est des souvenirs que j'ai, hein. Excusez-moi.
Hein. allez-y.
C'était dans Pokémon Colosseum, ça ?
Non, il n'y avait plus de mini-jeux dans Pokémon Colosseum.
C'est dommage.
Voilà,
c'est ensuite revenu dans Pokémon XD avec la tour Titanite, pour ceux qui connaissent.
Non, mais attends, Arul, si tu veux des mini-jeux Pokémon, il y a Poképark. Hein.
Poképark.
Mais tu peux t'acheter Poképark.
Poképark Wii 2, je l'ai annoncé la dernière fois. Hein.
Alors justement, Jemifra, est-ce que toi, est-ce que c'est un regret sur Wii de ne plus avoir ces licences
Voilà, c'est vrai que je regrette beaucoup, mais avec l'arrivée de la Wii U, je pense qu'on pourrait faire quelque chose de pas mal avec les nouveaux Pokémon de la 5G, je pense.
D'accord.
Ou de la 6G.
C'est vrai que la comment dire, la Pokémon a vraiment eu une bonne vie sur la GameCube. La GameCube lui a permis de.
Et sur la N64, hein. On voilà, se rappelle aussi Pokémon Snap. Oui. Hein.
Voilà, donc c'était deux consoles.
Les Super Smash Bros. Qui ont aussi aidé à commercialiser.
C'est vrai.
Voilà, c'est exact. Donc je trouve que la GameCube a quand même bien lancé la série, enfin, ou du moins l'a gardé en vie dans le salon.
Sur console de salon.
Tu gardes un bon souvenir, Jemifra, finalement, de la GameCube alors ?
Ah oui, un très très bon souvenir, oui.
Bah merci pour ta participation.
Bah de rien, merci à vous.
Bah merci à toi,
une merci
prochaine.
À toi.
Allez, on passe avec un second auditeur sur Skype, c'est Wad. Salut Wad, ça va bien ?
Bien et vous, bonjour à tous.
Salut.
Tu deviens un peu l'habitué de Skype, hein.
Je pense, ouais.
Ça l'avait combien ? Deuxième, troisième fois ?
Troisième.
Ah voilà. Bah tu vois, on se posait la question justement.
Et bah voilà.
Alors Wad, est-ce que toi, il y a quelque chose qui t'avait marqué sur GameCube ?
Oui, le jeu 13.
Ah, c'est le... Le jeu d'Ubisoft, le FPS, je crois, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Exact.
Tiré de la BD directement.
Qu'est-ce qui t'a marqué dans 13 ?
Bah, franchement, je trouvais ça génial le fait que, en fait, le graphisme, vu que c'est du graphisme de dessin animé, en fait, t'as l'impression qu'ils peuvent pas mieux faire. Donc, t'avais l'impression que sur ta GameCube, t'avais un graphisme des années 3000.
Ouais, c'est vrai, c'est
un graphisme parfait,
graphisme
BD, quoi.
Bah ouais, voilà, et donc
ça reprend un petit peu le graphisme. Voilà. Et il y avait les. Il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y avait les
onomatopées.
Les...
Ouais,
c'est ça, exact. Splash, oh, voilà. Bam.
C'est magique ça. Ça, c'est magique.
C'est marrant parce que c'est un jeu finalement qui est passé un peu. Enfin, un peu, j'ai dit inaperçu. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais finalement qui est pas resté un jeu marquant de cette génération.
Oui, bah oui, pas du tout assez marquant.
Et tu trouves que c'est injustifié justement?
Ah bah oui, parce que franchement, c'est un des meilleurs avec GoldenEye, quoi.
Mais alors, finalement, c'est vrai que le jeu, on le retrouvait aussi sur PS2 et Xbox.
Ouais. Oui, moi, je me souviens y avoir joué sur PS2, par exemple.
Ouais, là, dans la GameCube, le mode multijoueur, en fait, il a une map en plus.
Et c'est une map de quoi, exactement?
C'est le temple. Donc, en fait, c'est une map que tu retrouves dans le mode solo.
Ouais.
Et donc, en fait, c'est un espèce de temple.
D'accord. Donc quoi, il y avait quand même des exclus,
une petite exclu pour la console.
Ouais,
quoi.
C'est rare.
Au final, Wad, tu gardes un souvenir global de cette console plutôt positif
Ah bah oui, la preuve, je l'ai racheté il y a 2 semaines.
Ah d'accord.
Ok, bon.
Ah ouais.
Et ça va alors, ça fait de la redécouvrir, c'est pas trop dur?
Ah non, c'est plutôt magique.
Ouais, de toute façon, les graphismes de la GameCube sur la Wii, c'est la même chose à peu près, à peu de choses près. Hein.
Ouais,
un peu de choses près, ouais.
Alors, c'est même exactement la même chose.
Ah bah tu vois, on est d'accord.
Ouais, clairement. Bah écoute, merci beaucoup Wout pour cette participation.
Et bah merci à vous, et de toute façon à la prochaine comme d'habitude.
À la semaine prochaine.
Ouais, voilà.
Alors rapidement pour conclure, finalement la GameCube, alors on le voit, il y a beaucoup de jeux, plein de bonnes choses, et finalement la console a été un flop,
le plus gros flop.
En tout cas, la dernière console derrière la Xbox et la PS2, ses concurrentes. Ouais.
Voilà, elle a été, donc c'était une console qui voulait à tout prix rester dans le jeu vidéo, donc que du jeu, rien que du jeu, alors que ses concurrentes étaient parties dans le format DVD et tout ça. Donc voilà, c'est la dernière des consoles de l'ancienne génération. C'est également la pire console Nintendo en termes de vente, de succès, après la Virtual Boy. La
oui,
Virtual
Boy,
on va pas en reparler. Mais bon, donc voilà, ça a été un... Dès le début de la console, on a senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas chez Nintendo. Elle avait été annoncée à 249€, il me semble.
C'est ça, ouais.
Et soudainement, donc, peut-être un ou deux mois avant la sortie.
Oh, même pas, hein. Je crois que c'était vraiment juste à quelques jours. Ouais.
Donc Nintendo a annoncé le prix de vente à 199€. Donc,
baisse de 50€ avant la sortie, ouais.
Ouais, ce qui pourtant faisait un argument de vente énorme par rapport au prix des Xbox ou de la PS2. Hein.
Ouais, c'est clair, mais on a senti déjà là qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc après, 2 ans après, je crois que ça allait encore descendu à 99€. Donc voilà, moi je pense que Nintendo avait déjà des problèmes avant le lancement de la console, et qu'en fait le pire défaut de cette GameCube, c'est d'être sorti après la PlayStation 2, et surtout pendant l'expansion de la PlayStation 2, pendant sa grosse période de durée de vie. Pour moi, ça a été le plus gros défaut de cette console, mais c'était bien dans les jeux.
Alors on a été un petit peu long avec la GameCube, alors on va vite passer sur les sorties de la semaine. Une sortie sur DS, Cryo.
Oui, donc la DS à l'honneur avec Dragon Quest Monster Joker 2, donc qui sort aujourd'hui même sur la défunte DS. Donc voilà, c'est un petit jeu de la licence Dragon Quest qui va un petit peu à l'encontre. Ce n'est pas un jeu d'aventure, donc voilà, c'est une petite adaptation.
Ah, j'ai l'impression qu'Arulse, le mot défunte,
ah ouais,
t'a fait bondir.
T'es fou toi, défunte, il y a encore le Layton qui sort à la fin de l'année.
Oui, mais bon.
Tu l'oublies pas celui-là, s'il te plaît?
Si, pour moi elle est morte, la console Layton, il est sorti il y a 2 ans.
C'est bien, ils vont être contents chez Level 5.
Et pour pas de jaloux, la Wii aussi a droit à sa sortie.
Oui, alors c'est la sortie de, comme chaque année, le fameux jeu de la NBA, NBA 2K12, hein, par EA Sports. It's in a game.
À ce qui paraît, c'est un bon petit jeu. Bon, peut-être sur les versions HD, mais...
Oui, bah de toute façon, c'est pour les fans de basket. Voilà, au moins, ils ont un rendez-vous annuel.
C'est une bonne simulation,
sympathique.
On va dire.
Ouais, à privilégier sur les autres consoles, quand même.
Oui, quand même, bien sûr. Mais si la jouabilité est adaptée à la Wiimote, pourquoi pas?
Oui, bon, on sait tous ce que c'est, la jouabilité adaptée à la Wiimote.
En tout cas, si vous voulez retrouver Tony Parker et ses potes, c'est le 7 octobre. Et cette semaine, c'est moi qui vais faire le lancement des questions des membres, parce que c'est une question que Théox a particulièrement envie de répondre.
Ah non, mais attends, mais alors là, tu vois, ok. Bon, vous allez voir, une réponse incroyable.
Un petit oignon.
Un petit oignon, c'est ça. Son
dans la merde, non.
Et c'est une question de Gémifra que nous avons eue tout à l'heure sur Skype pour le débat, qui te demande, à l'époque, qu'est-ce qui avait destiné Nintendo à faire une console en forme de cube ?
Ah, très bonne question. Alors c'est vrai qu'en fait finalement la GameCube a une forme très particulière, d'ailleurs qui a fait peut-être aussi un peu son malheur d'une certaine façon, puisqu'elle avait une forme de jouet comme ça, une forme de cube
avec une poignée. Hein.
Exactement. Et c'est ça en fait, c'est que finalement au lieu d'avoir un design d'une console finalement plutôt sous forme de lecteur DVD ou de quelque chose d'électronique, Nintendo, et en tout cas Miyamoto qui s'occupait du design de la console, avait préféré avoir quelque chose plus proche du jouet finalement, du jeu, qui symbolise d'ailleurs bien l'esprit de la console. Et puis justement avec cette poignée que tu dis, finalement d'avoir quelque chose qui soit très solide et qui puisse être très emballé finalement de partout, c'est-à-dire qu'on puisse la prendre, l'amener dans la chambre de ses potes, qu'on puisse la prendre avec soi.
Oui, et puis il y avait aussi, je sais pas si vous vous souvenez, une connectivité entre les consoles. On pouvait les connecter à deux pour jouer à Mario Kart par exemple, à plusieurs, à plus que quatre.
Exactement, donc c'est vrai que justement, et comme tu le dis, avec cette fonctionnalité de LAN, c'est une console qu'il fallait déplacer et donc voilà, qui avait finalement cette apparence de quelque chose de solide, du jeu, et pas comme on le voit aujourd'hui par exemple avec une PS3 ou d'un produit
intransportable, hein.
Ouais, d'un produit de haute technologie. Mais ceci dit, j'ai envie de dire quelque chose, je vais essayer d'être assez rapide. Au-delà de ça, quelque chose dont on parle pas forcément beaucoup, c'est Nintendo qui pompe Apple de manière assez honteuse depuis pas mal d'années. On se souvient de la Nintendo 64, des Nintendo 64 transparentes en couleur,
ah oui,
sorties juste après les iMac transparents, ouais, en couleur. Et il faut savoir que Apple, juste avant la sortie de la GameCube, avait présenté son cube. Et bizarrement, Nintendo a sorti aussi lui un cube. Je suis persuadé qu'il y a des fans d'Apple chez Nintendo. Puisque l'histoire a montré de toute façon beaucoup, beaucoup de ressemblances entre les produits des deux sociétés.
Et ce sera tout pour les questions des membres cette semaine, parce qu'on a été assez long sur le débat, donc on prend forcément un petit peu moins de temps sur les questions des membres.
C'est l'heure du retour d'Arulz. Ah oui, il n'était pas là la semaine dernière.
Ouais, oui, bah oui, petit problème d'emploi du temps. Rien de grave, hein, je vous assure.
Alors attention, parce que c'est peut-être le cauchemar pour les auditeurs, parce que du coup les cauchemars, le cauchemar continue. Va-t-on réussir le jeu d'Arulz ? Va-t-on gagner ?
J'ai cru que c'était moi le cauchemar des auditeurs pendant un instant. Hein.
Le cauchemar, c'était question que tu m'as
posé.
D'accord.
Oui, alors pour jouer au jeu cette semaine, nous accueillons Olio.
Salut tout le monde.
Salut Olio.
Salut Olio.
Cette semaine, je t'ai confectionné un nouveau jeu en plus. Je vais te donner des descriptions de jeu, mais toi, tu vas devoir me dire si c'est un vrai jeu ou si c'est un faux jeu. Est-ce que tu comprends ?
Oui, oui, très bien.
On commence tout de suite par le premier. Alors, c'est l'histoire d'un plombier, tout de rouge vêtu, qui doit sauver une princesse à l'aide de pièces et d'étoiles. Pour arriver à la fin de sa quête, il devra manger de la salse pareille pour pouvoir grandir. Pour l'aider dans sa quête, il pourra se servir d'une monture, un chat muni d'un bonnet rouge. Est-ce que c'est un vrai ou un faux jeu ?
Un faux jeu.
Et c'est un mix entre quoi et quoi, selon toi ?
Je dirais un mix entre Mario et Zelda.
Ah, Mario et les Schtroumpfs.
Ah, oh, oh, les Schtroumpfs.
Ah ouais, le la salle, c'est pareil, le chat, Azrael. Ah, le... Ça pourrait être pas mal, non ? Non,
non,
okay. Peut-être pas, remarque.
Ouais, non,
en tout cas, Olio s'est pas laissé berner. Il est...
Ouais, il a trouvé, il a trouvé.
C'est bien. Je me suis dit, bon bah c'est facile aujourd'hui. Mais en fait, non. C'était quand même facile.
Alors, c'est l'histoire d'un gars qui a débuté en 1986. Les jeux reprennent le thème de la confrontation du bien et du mal grâce au mythe du vampire. La famille Belmont affronte tous les 100 ans le seigneur du mal Dracula, grâce à un fouet, un armement rudimentaire composé principalement de crucifix boomerang, d'une hache, d'une dague de jet, d'une montre et d'une fiole d'eau bénite. Vrai ou faux jeu ?
Vrai jeu.
Mm-hmm. Et qu'est-ce que c'est comme jeu ?
Je dirais Castlevania.
Bien, ah, Castlevania.
J'étais largué, mais...
Tu
ah
ouais ?
Ah non, je l'avais pas. Je l'avais pas. La honte pour moi, la honte.
Alors là, mais t'aurais mieux fait de rien dire.
Ouais.
Théox l'avait en tout cas. Comme toi, donc ça fait deux bonnes réponses.
Il a un peu gagné, mais bon, on va...
Il reste un troisième.
Ah oui, pour
l'honneur. Un troisième petit, petite description. Alors, c'est l'histoire d'un gars habillé en vert. Il est sorti en 1993, ce jeu. Le héros croisera entre autres une poissonnière et un certain Gwenham. Notre valeureux héros affrontera également de nombreux ennemis, comme par exemple des pneus volants. Alors, vrai ou faux jeu ?
C'est compliqué,
il est dur,
hein.
Il est dur celui-là.
Vrai.
Et c'est quoi comme jeu ?
Un Zelda. Zelda
tout pourri.
Celui c'est sorti sur Philips CDI là.
C'est ça, exact. C'est ça. Zelda, c'est Link. C'est même pas Zelda, hein. C'est Link. The Faces of Evil.
Oh là là.
Un des fameux Zelda de la CDI qui était à chier. Hein.
Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a comme cadeau alors,
on n'a pas encore de cadeau, mais ça devrait arriver dans pas longtemps.
Vous voulez pas m'offrir Super Mario 3D Land là pour novembre?
Ah bah désolé.
On va s'offrir à nous d'abord.
Il est réservé à moi celui-là.
C'est cher.
En même temps, je dois pas dire que tes questions sont très difficiles. Hein. Tu devrais augmenter la difficulté,
je pense. Ah, oh là là. Alors,
oh là là, ça demande.
Ça c'est un défi. Hein.
Ah oui. Bah, d'accord.
À chaque podcast, le jeu était très facile.
Bah c'est pas. Tout le monde n'est pas de ton avis quand même. Hein.
À la limite, on fera à l'occasion un jeu spécialement pour toi, bien tordu, et on verra si tu seras l'auteur. Eh ben écoute, merci.
D'accord, Olio. Bah de rien.
Et merci d'avoir.
Merci
super
à toi.
Super sympa.
De rien, salut.
Allez, ciao.
Bye. Bonne soirée.
Et nous arrivons, ça y est, au terme de ce podcast qui est d'ailleurs enregistré en cette journée qui est un peu spéciale puisque finalement on a appris ce matin la mort de Steve Jobs. Oui. Alors Ulf, tu voulais en dire deux mots.
Oui, bah, c'est quand même quelqu'un qui a révolutionné l'informatique, Steve Jobs. C'est grâce à lui qu'on a beaucoup de technologies aujourd'hui et juste repose en paix, Monsieur Jobs.
Voilà, moi... également les mêmes mots que Raoul, je pense. Et oui, je voulais également dire un petit mot pour le live de Koopa.fr, donc qui lance en partenariat avec Nintendo Master, donc un petit 24 heures de jeux vidéo. Donc vous pouvez voir son live sur son site et également faire un don sur la page de Nintendo Master et gagner plusieurs cadeaux. Une trentaine de jeux offerts par les éditeurs. Donc voilà, c'est.
Ça commence quand ça?
Ça commence vendredi à minuit.
Donc dès ce soir.
Donc voilà, dès ce soir, et voilà, vous pourrez gagner beaucoup de jeux Nintendo, Sega, THQ, plein de petits trucs sympas.
Et vous pourrez également suivre le live sur Nintendo Master, voilà, on a mis un petit cadre pour le suivre.
Et y participer pour
le chat aussi.
Donc voilà, c'est sympa.
Voilà, de quoi s'occuper pendant le week-end. Et bah écoutez, messieurs, merci beaucoup.
Merci.
Bah merci à toi.
Ça m'a fait plaisir de vous revoir quand même, le dis.
Je suis sûr qu'on t'a même manqué. On se retrouve la semaine prochaine.
On se retrouve.
Rendez-vous est pris.
Avec plaisir.
À mort. Nickel.
À la semaine prochaine.
Bye.
Bye.